plus on cherche à automatiser, plus on cherche à streamliner de manière complètement inhumaine, bah, plus on perd face à nos concurrents qui vont continuer peut-être à être dans une logique de productivité, d'efficacité, mais garder de l'humanité au milieu et donc qui vont augmenter leur taux de conversion.
Hello et bienvenue sur le podcast People First. Ce podcast invite les leaders positifs de demain à créer des cultures fortes, saines et impactantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, partenaire chez Teampact Ventures, le fonds d'investissement qui mobilise le sport de haut niveau pour créer des équipes qui gagnent. Chez Teampact, on est convaincus qu'impact positif et performance, ça passe par les employés. Donc on cherche toujours à répondre à la même question. Quelles entreprises seront attirées, recruter et faire grandir les talents. People First a pour vocation de partager ses apprentissages pour inspirer celles et ceux qui sont convaincus que la culture est un vecteur de performance, de sens et de bien-être. Entrepreneurs, Chief People Officer, experts ou expertes pointues d'un sujet, mes invités offrent un regard actionnable et concret sur les leviers people permettant de créer des cultures où chacun et chacune peut exprimer le meilleur. Une question, une suggestion, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante, sarah@teampact.ventures. Et si vous appréciez ce podcast, laissez-moi une note sur la plateforme de votre choix. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans la série Startup Bootstrap du People First Podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Robin Choi, une véritable masterclass sur le recrutement, nourri de 7 ans d'échanges avec des milliers de top recruteurs et founders. Ce qu'il faut savoir pour comprendre Robin, c'est qu'à l'origine, c'est un rugbyman. Marqué et transformé l'essai, ça le connaît. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il tient le podcast Une équipe qui gagne. Avec ses associés Ismaël et Paul, Robin a fondé Hiresuite en 2016 pour aider les entreprises à recruter sur des jobs en tension. 7 ans plus tard, Robin nous partage ses apprentissages et il le fait avec talent. Dans cet épisode, vous verrez pourquoi le FARM, la Fully Automated Recruiting Machine, à savoir complètement automatiser son recrutement de A à Z, est à la fois un mythe et une erreur stratégique. Nous partirons du mythe du FARM pour investiguer une par une les étapes d'un funnel de recrutement réussi, du sourcing au closing. Bonne écoute! Bonjour Robin!
Bonjour Sarah!
Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter aujourd'hui. Tu nous appelles d'où, là ?
Je suis à San Francisco et le soleil se lève sur la ville.
Tu m'as dit que tu commençais tes journées un peu tôt, donc on espère que tu es quand même d'attaque pour notre émission.
Oui, je suis d'attaque. Je suis réveillée, j'ai déjà fait ma marche dehors, donc je suis bon.
Génial. Écoute, aujourd'hui, on va faire un épisode, comme on s'est dit, sur le recrutement. Et plus spécifiquement, pourquoi est-ce que le recrutement, c'est pas une chose qu'on peut pleinement automatiser et pourquoi, en fait, c'est le cas ? Bon, j'anticipe un peu. Peux-tu d'abord te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît, ceux qui ne te connaissent pas ?
Oui, avec plaisir. Je suis un des 3 cofondateurs d'une entreprise qui s'appelle Hiresuite, qu'on a créée en 2016, développe des logiciels dans le recrutement. On a 2 produits principaux aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelle Hiresuite Marketplace, qui est ce qu'on appelle une talent marketplace. Donc, on a une équipe qui fait de la chasse de candidats toutes les semaines, essentiellement des développeurs, développeuses, qui rajoutent sur une plateforme et qui sont visibles à tous nos clients. Et tous les lundis, nos clients peuvent voir ces personnes-là qui sont en recherche, les contacter directement, soit en passant par l'intégralité de la base, soit en accédant par ce qu'on appelle des shortlists, donc des listes correspondant aux besoins des clients. Donc ça, c'est le premier produit Hiresuite Marketplace qui fonctionne uniquement en France. Et on a un autre produit qui s'appelle Hiresuite CRM, qui est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai déménagé à San Francisco, qui est un outil de productivité pour les équipes de recrutement, pour aider les équipes de recrutement à être plus productifs et à mieux engager leurs candidats, et leurs candidats en particulier, candidats et candidates potentiels, donc les gens qui ne sont pas forcément encore intéressés. Comment est-ce qu'on engage les gens, comment est-ce qu'on fait de la chasse, de la prospection, comment est-ce qu'on les tient informés, comment est-ce qu'on entretient, alors les mots-clés sont un peu prospection, entretien de vivier, voilà. J'ai aussi 2 podcasts sur le recrutement, un qui s'appelle Une équipe qui gagne, qui est en français, et d'où je l'espère ce bon micro normalement, et un qui s'appelle A Players, qui est en anglais. Voilà, donc j'invite tout le monde à écouter, si les personnes sont intéressées par les sujets de recrutement, à écouter l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, et évidemment à nous laisser plein de reviews sur les différentes applications de podcast.
Écoute, avec grand plaisir. Et question simplement, votre activité sourcing de talent, comment vous sourcez les profils ?
On fait beaucoup de chasse. On a des personnes qui viennent, qui postulent directement, et on commence à avoir une vraie marque chez Hiresuite, donc les gens nous connaissent. Mais malgré ça, on fait aussi beaucoup de prospection. Donc, on contacte des gens sur LinkedIn toute la journée. Et on leur parle d'Hire Suite. On leur demande s'ils sont en recherche. Et si oui, on les accompagne dans leur recherche.
Et si tu me donnes quelques éléments sur toi avant d'entrer dans le vif du sujet.
Moi, je suis bordelais d'origine. J'ai grandi à Bordeaux. J'ai passé une partie de mon enfance à l'étranger, à Madagascar. Et puis ensuite, j'ai fait des études, j'ai étudié à Paris. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Ismaël et Paul, mes deux associés, qu'on a créé Hire Suite ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je lis beaucoup, je fais beaucoup de bouquins d'entrepreneuriat, je fais beaucoup sur le recrutement aussi. J'essaie d'écrire et d'apporter de la valeur sur le recrutement. Donc, on écrit des guides sur le recrutement, on essaie de partager un petit peu les apprentissages qu'on voit chez nos clients, des bonnes pratiques. J'ai un chien qui s'appelle Rando.
C'est le détail qui tue. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as mentionné une métaphore, donc tu étais assez fier.
Oui, je t'ai mentionné la métaphore du farm, le FARM, qui est un sigle que j'ai créé moi-même pour représenter quelque chose qui revient souvent dans mes discussions avec des entrepreneurs, en particulier un peu entrepreneurs early stage. Et les entrepreneurs early stage ont souvent un peu une sorte de réticence face au recrutement. Le recrutement, ça nous défocalise de la mission principale de l'entreprise qui est de gagner plus d'argent, de travailler avec les clients. Le recrutement, c'est souvent un peu intimidant parce qu'on ne sait pas par quel bout l'aborder, ça prend du temps, c'est fastidieux, il y a plein d'étapes. Et donc, il y a un rêve qui revient souvent, qui est celui du farm, qui est le fully automated recruiting machine de la part des entrepreneurs. C'est, c'est simple, je vais complètement automatiser le recrutement. Donc, je vais avoir un chatbot qui va scanner tous les réseaux sociaux et faire des sélections de personnes à contacter, puis ensuite qui va les contacter automatiquement en personnalisant. Quand les gens seront contactés, ensuite on leur enverra un test automatique pour les évaluer. Il y a un test automatique qui les évalue de A à Z. Ensuite, c'est un autre chatbot qui reprend la relève s'ils sont pertinents pour leur envoyer l'offre d'emploi. Et ils signent et ils arrivent dans l'entreprise. On n'a jamais eu à faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est le fully automated recruiting machine, le farm. Et c'est intéressant parce que depuis 2016, donc c'est à la fois beaucoup et peu à la fois, mais depuis 6 ans, j'ai souvent des discussions avec des gens qui veulent recréer ça et qui disent « Ah bah génial, je vais avoir un outil qui va scanner automatiquement et contacter les gens. » Et ça, ça n'a jamais fonctionné. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'a jamais fonctionné, pour lesquelles je pense que ça ne fonctionnera jamais, et que ce n'est pas un bon fantasme à poursuivre, ce n'est pas un bon rêve à poursuivre.
Et justement, si tu élabores là-dessus.
Justement, le gros sujet, c'est que aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus simple de créer des boîtes. Tout est à peu près standardisé. Tout le monde utilise, héberge ses logiciels dans le cloud en utilisant sur AWS, sur Microsoft, Google, en utilisant des langages de programmation qui sont extrêmement simplifiés. C'est devenu de plus en plus simple de créer. Tout le monde utilise les mêmes CRM, les mêmes logiciels. Et une des choses qui sont extrêmement différenciables d'une entreprise à une autre, c'est l'équipe. Parce qu'une personne qui travaille dans une entreprise ne peut pas travailler dans deux, éventuellement dans deux, dans trois, tu vois, pour des personnes qui sont en freelance, mais pas dans 1000 entreprises comme pour du produit, comme pour AWS, par exemple. Donc, par essence même, le recrutement, c'est compétitif. Et c'est comme la vente la plupart du temps. Une personne, vous utilisez vous et pas un de vos concurrents. Donc, c'est compétitif, par essence même, c'est compétitif. Et en cherchant à automatiser, en fait, au lieu de gagner un avantage compétitif, on le perd, puisqu'on devient complètement commoditisé et on n'a plus aucune différence avec les autres personnes. Et donc, on n'a aucune chance de gagner. Et plus on cherche à automatiser, plus on cherche à streamliner de manière complètement inhumaine, plus on perd face à nos concurrents qui vont continuer peut-être à être dans une logique de productivité, d'efficacité, mais garder de l'humanité au milieu et donc qui vont augmenter leur taux de conversion. Et donc fondamentalement, ce modèle-là, si une personne arrivait à créer une fully automated recruiting machine qu'elle la mettrait à disposition à tout le monde l'utiliserait, un peu comme AWS, comme tous les logiciels qu'on a aujourd'hui, mais si tout le monde utilisait cette machine, elle marcherait pour personne. Donc fondamentalement, ça ne peut pas fonctionner. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gains de productivité qui sont possibles, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'automatisation qui est possible. C'est juste ce rêve dans l'ensemble du fully automated recruiting machine du farm qui est impossible et qu'il ne faut pas chercher à atteindre. Donc, il faut faire ça avec beaucoup plus de granularité et trouver un juste milieu.
Là, dans l'espèce de rêve que tu décris, on ne teste que les hard skills finalement.
Or, un des éléments qui est... Enfin, on pourrait tester les soft skills de façon automatisée, mais en réalité, on peut critiquer la notion de culture fit en disant ouais, bon, on recrute que des gens qui nous ressemblent, etc. Ceci étant dit, si on est capable d'avoir des critères assez précis sur ce qu'on recherche chez les candidats et en quoi ça incarne notre culture, ça, c'est un élément qui est quand même très difficile à standardiser et automatiser at scale, quoi.
Complètement. Et c'est, d'ailleurs, c'est un peu un autre sous-jacent du rêve du phare, c'est la notion de A-players. Alors nous, notre podcast en anglais s'appelle A-players, pour autant, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de A-players. Et on le voit dans le sport, par exemple. Il y a des personnes qui performent très bien dans une équipe et ensuite pas du tout dans une autre, ou très bien dans un sport et pas du tout dans un autre sport. Et donc, en fait, souvent dans le recrutement, il y a un peu cette idée de il y a un top 1%, puis un top 5%, puis un top 10%, et puis tout le monde veut évidemment le top 1%. Sauf qu'en réalité, c'est toujours à proportion de l'entreprise, du rôle, du moment dans la vie de la personne. Et ça, effectivement, ça s'évalue avec de l'humain et c'est aussi de la prise de risque. Les meilleurs recrutements qu'on a fait chez AirSuite, c'était des moments où parfois on a pris des risques. On a été payé, entre guillemets, pour notre risque, mais fois 100, quoi. Or, si tu cherches à tout automatiser, bah, tu retires complètement cette logique de prise de risque et tu ne fais que des recrutements qui n'ont pas de risque. Et ça, c'est un des autres problèmes du recrutement, c'est que tout le monde cherche exactement le même type de profil, personne ne veut prendre de risque. Donc, tout le monde, tu vois, sur une cible, vraiment veut taper dans le 100 points en pile au milieu de la cible. Or, dès qu'on s'éloigne un petit peu de la cible, il y a beaucoup, beaucoup moins de concurrence, des personnes qui sont tout aussi fortes, tout aussi pertinentes. Mais comme il y a moins de concurrence, on est plus susceptible de les closer. Un exemple assez simple, c'est comment est-ce qu'on affine ces critères de recherche. Bah, nous, par exemple, dans le développement, tout le monde va dire on veut quelqu'un entre 3 et 6 ans d'expérience qui développe sur telle techno. Ça, c'est super parce que la personne arrive, elle ne coûte pas trop cher parce qu'elle n'a pas 15 ans d'expérience, mais en même temps, elle est opérationnelle parce qu'elle a déjà au moins 3 ans d'expérience. Donc ça, c'est le profil rêvé. Sauf que tout le monde cherche ça. Et parfois, en rajoutant des choses du type « je veux que la personne ait travaillé déjà dans une startup, puis fait une grande école ». Donc en fait, tout le monde se bat pour les mêmes... la même toute petite cible de profil. Or, dès que tu t'éloignes, dès que tu dis bah, finalement je vais peut-être prendre des gens qui sont sortis d'école, ou alors je vais être plus flexible sur les écoles, je vais être plus flexible sur les technologies, tu vas avoir moins de concurrence, donc tu es plus susceptible de recruter des gens qui peuvent être, enfin qui sont tout aussi bons, voire meilleurs. Donc voilà pourquoi aussi encore une fois, gardez en tête que c'est un process qui est compétitif. Si vous cherchez à tout automatiser et que vos concurrents automatisent tous, la personne qui s'en sortira sera justement celle qui automatisera pas et qui va être capable de prendre des risques et de sortir de la fiche de poste parfaite, idéale, de contacter des gens qui sont un petit peu en dehors de cette fiche de poste et ensuite de les closer de la bonne manière, de les évaluer de la bonne manière.
Oui, complètement. Et est-ce que, en ce sens, on pourrait dire que chez AirSuite, vous essayez de faire une version un peu réaliste de ce farm, c'est-à-dire une version qui intègre les éléments que tu viens de mentionner ?
Surtout pas. Non, alors, en fait, dans la logique du farm, oui et non, mais nous, on est dans une approche qui est plutôt de productivité plutôt que d'automatisation. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, tel que je le verrais, c'est un peu... tu vois, la chaîne de production en usine versus la machine à coudre. La machine à coudre permet de rendre le couturier ou la couturière plus efficace, mais tu as toujours besoin d'une personne qui opère cette machine, tandis que la ligne de production, elle est complètement automatisée. Nous, on est plutôt une machine à coudre, et le farm, c'est plutôt la ligne de production de A à Z. Sauf qu'encore une fois, une ligne de production, ça marche s'il y a pas, si tu n'es pas sur une ressource qui est compétitive. Tu vois, si tu dois créer des machines, tu peux en créer 10, 100, 3 millions, ça dépend juste de ta chaîne de production. Là c'est différent, donc nous on est plutôt on est sur des pièces uniques des séries limitées quoi, chaque personne a une série limitée, donc nous on est plutôt la machine à coudre et je dirais pas qu'on est le farm, mais on est plutôt sur une logique de productivité et de dire ok, comment est-ce qu'en fait tu aides une personne à délivrer un ou une recruteuse à délivrer encore plus de valeur individuellement, donc plutôt un multiplicateur, tu vois, la machine à coudre, l'exosquelette, plein de manières de le voir, plutôt que remplacer ce recruteur ou cette recruteuse.
En fait, j'ai l'impression que vous faites le sourcing et la préqualification des candidats d'une part, et derrière, l'engagement et les touch points, même ensuite, quand il faut recontacter les candidats d'autre part avec votre deuxième produit.
Généralement la phase au tout début même du process de recrutement qui est parfois un peu sous-estimée mais qui est pourtant la plus critique, c'est la définition du besoin. Donc comment est-ce que tu définis exactement qui tu recherches, et puis ensuite tu as la phase de sourcing, engager des personnes, comment est-ce que tu les relances dans la durée pour être sûr qu'elles te répondent, puis ensuite la phase d'entretien et la phase de closing à la fin, et puis ensuite la phase d'onboarding, parce qu'on peut vraiment tirer le recrutement jusqu'à ce que la personne soit efficace dans l'entreprise. Nous, effectivement, avec Marketplace, on est dans les deux produits, notre proposition de valeur, c'est vraiment de dire on vous aide à rencontrer plus de personnes en entretien. Donc la définition du poste, c'est à vous de la faire. On vous aide, notamment sur Marketplace, on accompagne les entreprises pour mieux définir le poste et faire un peu ce travail parfois d'élargir les critères de recherche. Mais il faut qu'il y ait déjà une volonté de la part de l'entreprise de le faire. Sur le CRM, à l'inverse, on ne le fait pas du tout, puisque c'est un logiciel, on le met directement dans les mains des personnes et c'est à elles de le faire. Donc ça, c'est la partie sourcing, définition du poste. Ensuite, le sourcing, on aide à générer des gens, on aide à être plus efficace. Et ensuite, pendant toute la suite du process, effectivement, gestion de la relation avec les candidats, on accompagne jusqu'au closing à la fin, surtout sur la marketplace où il y a une dimension service qui est plus importante, puisqu'on a ce qu'on appelle des account stratégistes et des talent stratégistes qui travaillent avec les entreprises et les candidats et candidates qui aident à améliorer ce process, parce que encore une fois, toutes les phases d'entretien, c'est quand même assez hallucinant parfois de voir des personnes qui ne répondent pas des deux côtés, qui ne donnent pas d'informations ou du manque de communication. Donc, nous, on rajoute des humains qui permettent de rajouter de la communication dans cette relation-là.
Complètement. Ouais, alors que c'est un des points clés, si tu veux, derrière convertir. Justement, c'est peut-être la partie humaine du process qui est la moins automatisée. C'est-à-dire te dire, ah, attends, telle personne, il faut que je pense à, ah oui, renvoyer quelque chose, quoi, qui soit un peu... qui montre que bah, we care. Quoi.
Dans le recrutement, c'est assez marrant parce qu'on a rencontré beaucoup de concurrents ou d'autres acteurs au fil des années. Et il y a un phénomène qui se reproduit souvent, c'est les ingénieurs ou profils un peu cérébraux qui doivent recruter et qui se disent « Ah, mais en fait, le recrutement, c'est complètement sous-optimisé, c'est complètement cassé, je vais créer un logiciel qui va résoudre le recrutement. »
C'est vrai que j'ai vu ça aussi.
Et c'est toujours un peu la dimension, on retouche un peu toujours du doigt le farm, quoi. C'est très simple. On va retirer tous les biais, on va retirer tout l'humain du recrutement. Et puis, on a plein de boîtes qui font ça. Et puis, au bout de 4-5 ans, les fondateurs sont complètement burn-out et on discute avec eux. Et ils disent, mais en fait, c'est une industrie de dingue. On pensait qu'on pouvait rajouter de la donnée et des processés, mais en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a une dimension humaine fondamentale qu'il ne faut pas chercher à automatiser et qu'il ne faut pas chercher à se débarrasser de l'humain, mais au contraire, il faut l'embrasser et il faut se dire, OK, ça fait partie de l'équation. Quoi. On est obligé de prendre en compte le fait que les gens ne prennent pas des décisions qui sont toujours rationnelles, qu'il y a plein de choses qui interviennent dans un process d'entretien des deux côtés. Donc voilà, une fois qu'on accepte ça, comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Mais il ne faut pas s'en débarrasser. Quoi.
Et justement, on va rentrer dans la partie un peu plus concrète et appliquée sur chaque partie du recrutement de notre échange. J'ai bien aimé l'image que tu as employée tout à l'heure de pièce unique, enfin, d'ailleurs que je t'ai soufflé, mais en fait de la machine à coudre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même chaque startup, d'une certaine façon, est une pièce unique en elle-même. Et déjà, avant même de parler des profils ou des personnes à cette maille-là qu'on va recruter, il faut déjà penser sa stratégie de recrutement en fonction de ses enjeux. Et c'est pour ça que je voulais commencer avec ça comme question. Parler avec toi des facteurs qui vont influencer le recrutement selon ma typologie de start-up, de business, de workforce, etc. Donc, quelle question est-ce qu'il faut se poser avant de démarrer?
Ça, c'est la phase qu'on appelle de prise de brief ou phase de lancement au début qui est critique, quoi. C'est pourquoi est-ce qu'on recrute? Que va faire la personne dans les 30, 60, 90 premiers jours? Quels sont les critères de succès de cette personne, comment je saurai après 3 mois si elle a performé ou pas, est-ce que c'est du chiffre d'affaires, est-ce que c'est des fonctionnalités qui ont été livrées, comment est-ce qu'on évalue cette personne, quel est l'intérêt pour l'entreprise au sens large, quelles sont les attentes de l'entreprise envers cette personne, donc de bien tout définir. Il y a beaucoup de littérature, que ce soit en ligne. Nous, on a fait un épisode de Une équipe qui gagne, qui est l'épisode numéro 2 avec Marjorie Boruel, qui est de Talent Acquisition chez Conto, qui est vraiment concentré uniquement là-dessus. Quelle est la phase, quel est le template, le document qui est utilisé chez Conto pour lancer un nouveau recrutement. Donc, je conseille à tout le monde de le faire. Et ensuite, quelles sont les compétences qui sont vraiment critiques? Et ça, la manière de découvrir les compétences qui sont critiques, c'est de jouer avec la limite. On veut une personne qui a entre 3 et 6 ans d'expérience. Est-ce que si on vous présente quelqu'un ou si on voit une personne qui a 2 ans et 9 mois d'expérience, on ne lui parlera pas? Si, peut-être qu'on lui parlera. Donc, peut-être qu'en fait, ce n'est pas 3 ans et entre 3 et 6 ans, mais c'est peut-être entre 2 ans et demi et 6 ans. Mais si la personne a 2 ans et 3 mois, est-ce qu'on lui parle pas? Bah, si, on lui parlera quand même. Donc voilà, jouer vraiment avec les limites et être aussi conscient des biais et des endroits où il y a des biais. Donc typiquement sur les écoles, sur je sais pas, sur les entreprises précédentes. Les gens ont souvent envie de recruter, en particulier dans les startups. Je veux quelqu'un qui a déjà travaillé dans une startup. En réalité, avant de travailler dans une startup, la personne elle a travaillé pas dans une startup ou ailleurs. Il y a une startup qui lui a donné sa chance au début. Donc voilà, bien avoir ça en tête et bien cadrer les attentes. Je recommande aussi un livre qui s'appelle Who, the A Method for Hiring. Il parle d'une logique de scorecard. Alors, beaucoup de gens ont lu ce livre. Personne n'utilise vraiment les scorecards de Who parce que c'est pas très applicable, mais ça donne des idées aussi de comment lancer un recrutement et quelles sont les questions à se poser au début.
Oui, parce que je trouve intéressant aussi, c'est de raisonner à la maille compétence parfois plutôt que expérience ou, enfin, comment dire, c'est peut-être un peu théorique, mais ça permet aussi d'être plus créatif, surtout sur des jobs où c'est moins mappé. Tu vois, tu pensais des devs tout à l'heure. Bon, ok, ou soit on a les catégories et on sait ce qu'on cherche, mais si tu sors de ta catégorie, ça peut t'aider. Par exemple, tu disais trouver des personnes qui ont peut-être une autre formation, qui sortent d'école ou autre. Même pour d'autres jobs, je pense à des. Moi, ça m'arrive souvent en fait en ce moment de voir des startups qui ont des populations un peu expertes. Tu vois, faut que tu trouves la personne qui connaît à fond son sujet. Bon, là, t'es obligé d'avoir la bonne formation, le bon diplôme, mais derrière, tu dois quand même être sacrément créatif pour trouver le profil. Donc, c'est une échelle de raisonnement qui n'est pas la même.
Oui, il y a souvent la logique de compétences transverses qui n'est pas trop exploitée en France, donc ça veut dire qu'il y a une belle opportunité dessus encore, mais c'est, tu vois, l'exemple typique, c'est de dire on prend des gens qui sont... qui ont travaillé dans des établissements qui reçoivent du public pour faire ensuite du customer success dans des startups parce que ce sont des gens qui ont eu l'habitude de gérer du monde, tu vois, et donc de réfléchir aux compétences transverses présentées face à du public, gérer du mécontentement, réagir en temps réel. Et ça, on le fait pas du tout assez, on le fait pas du tout assez en particulier en France. Dans les pays anglo-saxons, c'est un peu plus naturel. On va recruter des développeurs qui ont fait des études en, lettres par exemple, tu vois. En France on le fait un peu moins, mais encore une fois, dès qu'on sort vraiment du milieu de la cible, ça devient beaucoup plus simple de recruter des personnes et ça devient beaucoup plus compétitif. Donc j'encourage un max de personnes, un max de recruteurs et recruteuses et fondateurs et fondatrices à pas simplement rester fixé sur des compétences très claires qui sont celles que tout le monde utilise, mais essayer de trouver quelles sont les compétences transverses dont on a besoin et quelles sont les manières un peu smart dont on peut aller les chercher dans d'autres peut-être segments de la population qui sont moins sollicités.
Au niveau du sourcing, je vois beaucoup de gens passer par LinkedIn, ça marche pas forcément toujours parce que tu as des profils qui sont peut-être plus durs à trouver ou tu sais pas exactement où les chercher. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce commentaire?
Ça, c'est un autre, je pourrais faire un post dessus, ça m'évoque une autre chose qui est les candidats ne répondent plus sur LinkedIn, tu vois, ou les gens ne sont pas sur LinkedIn. La réalité, c'est que la plupart des gens, sur la plupart des métiers, sont sur LinkedIn. Je ne parle pas des métiers niches, peut-être dans le bâtiment, le transport, la logistique, où les gens ne sont pas du tout sur LinkedIn, donc là, il y a d'autres manières de sourcer, mais sur la plupart des métiers, la plupart des gens sont sur LinkedIn. 80, mais... Et quand on avait créé HireSuite, ce n'était pas le cas. Notamment, les populations ingénieurs étaient moins sur LinkedIn. Là, ça commence à être vraiment le cas. Et l'enjeu, il a beaucoup changé, notamment assez rapidement, depuis 2016. En 2016, l'enjeu, il était beaucoup encore sur comment est-ce qu'on trouve les personnes, comment est-ce qu'on les identifie. Il faut peut-être aller sur LinkedIn. À l'époque, il y avait encore Viadeo. Il fallait peut-être croiser des sources, des choses comme ça. Aujourd'hui, l'enjeu, il est beaucoup moins trouver les personnes et beaucoup plus obtenir des réponses. Donc, la plupart des gens sont sur LinkedIn. Vous arrivez à trouver la plupart des gens. Maintenant, il faut obtenir des réponses de ces personnes-là, quoi. Et comme tout le monde peut les trouver, on revient un peu sur ce truc de la cible, tu vois. Et comme tout le monde met les fléchettes au même endroit, il y a moins de place et c'est plus difficile. Il faut soit élargir ses critères de recherche, soit apprendre à vraiment très très bien convertir les gens qu'on contacte.
Ah bah, en fait, si tu peux agir sur les deux, c'est tant mieux, quoi. Et si on prend les étapes du funnel de recrutement, donc déjà, si tu peux les rappeler rapidement, est-ce qu'il faut toutes les maîtriser dès qu'on se lance en tant que startup, lesquelles il faut maîtriser en premier? C'est un peu lié en fait au sujet que tu viens d'évoquer, mais...
Si je décompose le funnel, il y a effectivement donc la phase de définition du poste. Celle-ci, elle est vraiment très importante. Elle est souvent sous-estimée, en particulier en startup. parce qu'on se dit on n'a pas le temps, on veut aller vite. Bon, bah, c'est simple, j'ai recruté quelqu'un chez un de mes concurrents qui a fait exactement la même chose, mais sans plus de réflexion. Il faut vraiment prendre le temps sur cette phase-là. Je dirais que c'est vraiment la première phase à maîtriser parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir être compétitif. C'est qui est-ce que je veux recruter, que vont faire ces personnes, quel est l'intérêt pour elles de nous rejoindre. Parce que si je veux recruter une personne qui a déjà fait exactement ça pendant 5 ans chez un de mes concurrents et que je la paie moins, pourquoi elle viendrait, quoi. Donc, quel est l'intérêt de la personne de nous rejoindre? Ça, c'est le début. Ensuite, il y a le sourcing. Donc, sourcing, c'est à la fois réactif, c'est-à-dire je mets une offre en ligne, j'attends que les gens postulent, et proactif, je vais chercher moi-même des gens sur LinkedIn ou ailleurs. Hein, tu vois. Mais voilà. Ça, c'est assez important aussi dès le début. Si c'est bien fait avec une phase de préparation, si c'est la phase de préparation est bien liée, qu'on a passé du temps à définir les avantages compétitifs de l'offre et de l'entreprise, pourquoi la personne voudrait rejoindre, d'avoir un vocabulaire qui est vraiment propre à cette personne, donc pas simplement on veut une personne en sales avec 5 ans d'expérience qui a travaillé dans exactement la même startup, mais aller plus loin que ça. Normalement ça en découle, ça veut dire qu'après le message de contact il va être plus pertinent, il va être plus personnalisé, et l'offre aussi, et donc ça va générer plus de candidatures. Donc ça c'est quand même assez important d'y passer du temps. On peut être aidé aussi par des cabinets de recrutement, il y a des gens qui sont qui peuvent le faire, mais la toute première phase de définition du profil elle est impossible à externaliser, donc celle-ci elle est vraiment très importante à maîtriser. Ensuite il y a la phase d'évaluation. Généralement la phase d'évaluation c'est la plus simple parce que les entreprises ont gagné beaucoup en maturité là-dessus. C'est globalement assez simple, un process d'entretien, on sait à peu près à quoi ça ressemble, donc c'est un premier appel, puis ensuite un entretien peut-être un peu plus fit, un entretien un peu plus technique avec un cas, une étude de cas, et ensuite un entretien de closing, et voilà, c'est à peu près ça quoi généralement.
Est-ce que les founders doivent être impliqués systématiquement dans ce process
d'entretien?
Oui.
Moi, je ne le suis pas à chaque fois, donc je vais avoir du mal à donner des leçons à d'autres personnes. Je ne pense pas que ce soit nécessaire que les founders soient impliqués à chaque fois. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne dirais pas qu'il y a un truc à l'emporte-pièce qui est les founders doivent être impliqués à chaque fois dans le process d'entretien. En revanche, c'est important qu'il y ait un vrai process et que les attentes des founders soient bien diffusées au reste de l'équipe. Donc, si les personnes ne sont pas impliquées, au moins les fondeurs ont déjà fait des entretiens avec des personnes de l'équipe, ont expliqué les attentes, ont structuré. Sinon, ça c'est sûr que ça devient chaotique et tout le monde dans l'entreprise fait des choses différentes. Après, une fois que les gens sont bien alignés sur le type de profil qui est recherché, que la phase de définition de profil au début a été bien faite, que les questions sont claires, que les manières d'évaluer sont claires, il n'y a aucun risque. Au contraire, c'est assez...
puissant et
une marque de confiance, voilà, c'est une question d'alignement. Ouais.
En fait, d'une certaine façon, c'est ce que j'ai entendu chez 360, qui est un épisode que j'ai enregistré récemment, c'est créer un système qui puisse te remplacer. Alors, on n'en est pas dans le farm, mais c'est plus que si t'es pas là, que t'es suffisamment bien pensé les choses pour que ce soit tout comme.
Oui, complètement. Mais là, on est complètement... pour moi, ça n'a aucun rapport avec le farm, parce qu'au contraire, tu gardes des humains qui sont impliqués, qui... l'expérience candidat et candidate reste très humaine, c'est juste du management, tu vois, des bases de management de comment bien déléguer. On a fait un épisode aussi dans une équipe qui gagne avec Backmarket, et Backmarket c'était un petit peu l'inverse, ils sont allés, je crois, c'était peut-être 300 personnes et le fondateur participait encore à tous les entretiens. Et justement cet épisode est intéressant parce qu'on se dit, ok, de toute façon, ça ne tiendra pas. Tu ne peux pas, mécaniquement, il y a un moment où ça ne tiendra pas. Donc, à quel moment tu fais ce switch et comment est-ce que tu le fais? Et c'est intéressant d'arriver à dire, en fait, l'objectif, il est de garder ce niveau de qualité, ce niveau d'attente et cet alignement, mais en le distribuant sur d'autres personnes de l'équipe, mais ce qui est complètement possible.
Tu l'as fait avec Wendy, ton épisode?
Avec Wendy, ouais.
Ouais. Bah, petit coucou à Wendy, qui est vraiment super. Et effectivement, Backmarket a mis en place un super process en fait pour permettre de scaler ce recrutement tout en gardant leur culture assez particulière à ce moment-là, quoi. Vraiment hyper intéressant. Bah écoute, c'est une question qu'on pose souvent en fait, de savoir si les founders doivent être impliqués ou pas, notamment parce que ça prend aussi du temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est un investissement aussi de ne pas impliquer les founders, parce que tu te dis qu'en amont t'as suffisamment bien pensé pour le faire. Et alors je te laisse continuer sur le process pour voir aussi jusqu'où ça va pour toi.
Après la phase d'évaluation, il y a la phase de closing. je sais pas comment on dirait en français, mais c'est en gros convaincre la personne d'accepter. Donc on lui fait une offre, on la convainc d'accepter l'offre. Cette phase-là, elle est souvent sous-estimée aussi, ce qui veut dire que pour des startups un peu jeunes, avec très peu d'efforts, on arrive à être très compétitif sur cette phase-là. Donc très peu d'efforts, c'est simplement juste avoir en tête qu'un process de recrutement, c'est aussi une vente de l'entreprise. Et donc il y a quelques pratiques de la vente qui sont notamment savoir quelles sont les attentes de ses clients et comment est-ce qu'on les résout et quelles sont un peu les préoccupations qui les maintiennent éveillés la nuit, tu vois, comment est-ce que la décision finale sera prise, et donc se renseigner tout au long des entretiens sur ok, garder ça en tête, qu'est-ce qui va faire que tu vas prendre cette décision, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta réflexion, quelles sont les autres entreprises auxquelles tu parles, si aujourd'hui on te fait une offre de 0 à 10, est-ce que tu es susceptible de l'accepter, si c'est un 8, pourquoi pas plus. Qu'est-ce qui te manquerait pour savoir ça ? Voilà, être vraiment très impliqué dans cette phase de closing-là. C'est aussi là que les fondateurs peuvent le plus aider parce que généralement, ce sont aussi des bons closers qui ont une bonne connaissance de l'ensemble de la boîte, qui ont réussi à déjà fédérer une première équipe autour d'eux. Donc,
et la vision aussi.
La vision, voilà, il y a un peu une sélection naturelle que s'ils n'arrivent pas trop à closer du business ou des employés, ben généralement, ils n'arrivent pas à cette étape-là. Donc, c'est généralement des bons closers. Donc, c'est peut-être là que les fondateurs peuvent être le plus impliqués et avoir le plus de valeur.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas standardisé, tu vois. C'est que c'est de la prise d'information. On est vraiment dans la vente parce que c'est écouter. Et peut-être qu'à terme, tu vas avoir des personnes, mais en fait, on n'en est pas là. C'est quelque chose de vécu et de réel pour chaque candidat ou candidate.
Complètement. Et parfois, les prises de décision... Bon, déjà, les gens sont assez transparents sur la manière dont ils prennent leurs décisions, généralement. Et il faut les écouter sans juger. Si une personne dit, bah, en fait, moi, à la fin, je prendrai l'entreprise qui m'offre le salaire le plus élevé, bah, il faut le noter, quoi. Il faut le prendre en compte et c'est parfaitement légitime. Voilà, ça, il faut le prendre en compte. Mais ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être, bah, voilà, en fait... j'envisage de quitter la ville, donc une entreprise qui pourra me donner de la flexibilité, ce sera mieux. Ou alors, moi, j'ai besoin de pouvoir travailler sur tel type de sujet ou avec telle technologie, ou j'ai envie de progresser. Il faut vraiment noter à fond. Garder en tête que c'est souvent pas une seule personne qui prend une décision, mais un écosystème de personnes. Donc, c'est la personne, sa famille, ses amis qui l'aident à prendre sa décision aussi. Donc, pareil, peut-être essayer d'avoir de l'information là-dessus. Et ça, ça se fait vraiment dès la toute première phase d'entretien qui est qu'est-ce que tu cherches toi aujourd'hui. Et puis garder en tête que ça change aussi, ce que la personne annonce qu'elle cherche en début de mois, après avoir passé plein d'entretiens, rencontré plein d'entreprises, ça change à la fin du mois aussi.
C'est vécu.
Repartir de zéro à chaque fois.
Ouais. Il faut faire des points réguliers. Faut pas vendre la poulance avant de l'avoir.
Rien n'est acquis. Exactement. Ouais, rien n'est acquis.
Pierre qui roule n'amasse pas. Non, je rigole. ok, ça marche. J'avais une question pour avoir un benchmark pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as des chiffres un peu clés? Voilà, c'est quoi un bon taux de conversion des offres? C'est quoi un bon nombre de candidats pour un poste? Un bon temps pour recruter? Peut-être c'est dur dans l'absolu, mais voilà.
Je vais essayer de donner quelques chiffres qui me semblent intéressants, en tout cas qui, moi, m'ont surpris dans mon histoire avec AirSuite. Déjà, historiquement, avec AirSuite, il y a 25% des offres qui sont lancées qui simplement ne mènent pas du tout à un recrutement. Il y a une chance sur quatre que le recrutement que vous lancez là, il n'aboutisse pas à un recrutement. Comme un recrutement, ça prend du temps. Si dans 25% des cas, ce temps est gâché, c'est du gaspillage, quoi. Donc, bien le garder en tête dès le début. Quand on lance un recrutement, est-ce que c'est vraiment le recrutement qu'on va mener jusqu'au bout ? Ça, c'est un des premiers points. Deuxième point, il y a un peu les taux de conversion à peu près classiques. Généralement, les taux de conversion, on va dire, au premier entretien, c'est 50% à peu près. Donc, 50% des gens qui passent le premier entretien, le call technique, l'appel téléphonique de qualification. Là, l'objectif, c'est vraiment d'éliminer les grosses erreurs. Tu vois, la personne qui veut du télétravail complet alors que c'est complètement impossible, ou la personne qui ne veut pas du tout travailler dans la finance alors qu'on a une boîte dans la finance. Donc ça, c'est à peu près 50%. Après, l'entretien, le premier entretien, c'est à peu près 50% aussi. Premier entretien fit, il y a une personne sur deux. Et ensuite, plus ça progresse, plus ça diminue. Généralement, le deuxième entretien technique, il y a 70% des gens qui passent l'entretien technique. Puis ensuite, l'entretien final, pareil, il y a à peu près 70% des gens qui passent. J'ai pas parlé de la phase de prise de référence. Nous, on en fait. Je sais pas si on va le garder. Il y a beaucoup de questions sur la prise de référence. moins d'unanimité que ce qu'il y avait à l'époque, par exemple, de Hood et Method for Hiring, oui. Où ils parlent vraiment de la prise de référence.
La prise de référence dans The A-Method, on peut en parler, mais c'est dense, quoi.
Ouais, c'est dense. Mais nous, on utilise toujours ça. En réalité, bon, ça ne nous a pas énormément apporté parce qu'on n'a jamais retiré une offre suite à une prise de référence. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a 100% de conversion sur les prises de référence. Par contre, ça nous a parfois aidé à mieux comprendre le management de la personne, à mieux se préparer et à mettre en place les bons éléments pour la personne ensuite réussisse dans son job. Donc,
on en revient sur ce qu'il y a tout à l'heure, le côté relatif, l'équipe, dans quel milieu on s'insère en fait, ouais. Et la prise d'information.
Et ça peut aider, ouais, ça peut aussi aider au closing. Mais voilà, ouais, donc en fait, après, nous, entretien, la phase de prise de référence, bon, 100% de conversion. Et le closing, alors là, ça dépend vraiment, mais en dessous de 50%, s'il y a moins de 50% des offres qui sont émises, qui ne sont pas validées, ça veut dire que vous êtes allé jusqu'à la fin d'un process, vous vouliez absolument avoir la personne, vous avez vraiment fait cette phase d'essayer de comprendre ses attentes, et il y en a toujours une sur deux qui n'accepte pas. Là, il y a plutôt un warning, et la moyenne, elle est à 75-80%. Voilà.
Enfin, ok, ouais. Hey, donc les startups que j'ai vues, moi, 90%, elles sont pas mal.
Ouais, elles sont pas mal. C'est bien 90%, c'est parmi les meilleures, ouais.
Si on regarde un peu, donc là, on était vraiment sur le process de recrutement en lui-même. Mais en fait, pour attirer, convertir sur du long terme, il y a des enjeux de marque employeur et des enjeux de culture. Et j'aurais bien aimé en parler un petit peu avec toi.
Ouais.
Donc, sur quel levier on peut jouer pour améliorer sa marque employeur déjà ?
Bah, comme tu le dis, la marque employeur, c'est quand même très lié à l'interne. C'est-à-dire que si les gens sont malheureux dans l'entreprise, vous avez beau investir autant que vous voulez, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir une belle marque employeur. Donc ça, c'est assez important. Et ensuite, la marque employeur, généralement, le conseil qu'on donne, c'est d'investir au fur et à mesure en partant de la fin du process. Donc les premiers investissements sur la marque employeur, ça doit être déjà des choses qui vont nous aider à closer les personnes. Celles à qui on a fait une offre, comment est-ce qu'on les close? Donc, bon, voilà, il y a plein de manières de faire. Et ensuite, on remonte. En fait, ensuite, la marque employeur, ça va être d'aider à améliorer la conversion des gens qu'on a dans le process. Donc, peut-être dans le process, leur faire parler à des personnes dans l'équipe, leur envoyer des témoignages de personnes dans l'équipe, s'assurer que le process d'entretien se passe bien, que les personnes voient éventuellement les bureaux, que les bureaux soient agréables. Et en fait, ça coûte moins cher d'investir sur les étapes qui ont le plus fort taux de conversion, c'est-à-dire que si on arrive à passer notre conversion de 70 à 90%, bah, ça a un impact qui est immédiat de plus 30% sur l'intégralité du process de recrutement. Alors qu'à l'inverse, les gens veulent souvent commencer la marque employeur par faire du marketing un peu gratuit et dire « Ok, voilà, on va parler de notre boîte en dehors. » Or ça, c'est ce qui est le moins efficace. Faut le faire, mais après avoir fait toutes les étapes, après avoir... Ensuite, l'étape précédente, c'est les personnes qui entendent parler de vous. Et ensuite, on va sur, à partir du moment où une personne voit notre offre ou reçoit notre message, qu'est-ce qui va déclencher une réponse ou une candidature ? Donc là, ça peut être, ce qui marche bien, c'est par exemple des vidéos du produit, de ce que l'entreprise fait. Il y a un fondateur français qui s'appelle Virgile Ringard de la boîte Figure qui fait un super truc sur ses pages carrières, j'en ai parlé récemment aussi, c'est qu'il met des vidéos de lui où il pitch l'entreprise, il explique avec des slides, il explique ce que fait l'entreprise et où elle va. Donc ça, c'est vraiment c'est de la bonne marque employeur qui va permettre de closer les personnes qui arrivent sur la page carrière. Donc voilà, de la vidéo, du texte, des exemples de produits. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, là, on peut aller sur ce que, paradoxalement, peut-être est ce qui est le plus immédiat quand on parle marque employeur, mais c'est diffuser la marque à tout le monde, donc faire des événements et avoir plus de gens sur ses pages carrières ou plus de gens dans le process. Mais il faut toujours commencer de la fin.
Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'on est encore sur un sujet de salience. Je ne sais pas si le terme se dit en français d'ailleurs, mais de ce qui est le plus visible. C'est-à-dire que... Tu vois, ce qui me vient le plus vite en tête, c'est de me dire « Ah, ben, faut que le plus de gens possible connaissent ma marque. » Alors qu'en fait, ce qui est le plus impactant, c'est que le plus de gens qui arrivent au bout acceptent mon offre. Et,
complètement.
Enfin, c'est le renversement de perspective est intéressant.
Et en particulier dans une startup où on n'a pas des budgets illimités et où c'est difficile de se battre avec Google et Conto pour la marque employeur. Mais ce n'est pas forcément nécessaire.
Non, c'est clair. Et il y a peut-être une remarque que je voulais faire sur ce que tu disais, c'est que pour commencer à faire ça dans le process, bon, encore faut-il avoir quand même des candidats qui arrivent en bout de process, enfin pour avoir des patterns quoi. Donc toi tu as de la chance de pouvoir le faire à grande échelle. Comment on fait quand c'est la première fois ou la deuxième fois On itère.
Comme tu dis, je pense qu'il faut avoir, faut garder en tête que l'objectif, c'est d'avoir des personnes qui aillent à la fin du process pour pouvoir s'améliorer. Et donc, il y a une dimension de sourcing, quoi, avoir le plus de candidats possible en début de process. Parce que si tu n'as que 3 personnes qui commencent le process, ben, de toute façon, personne n'arrivera à en avoir suffisamment à la fin. Donc, investir sur le sourcing et surtout garder en tête que le gain de temps, il vaut mieux avoir une personne non pertinente au début et faire l'entretien et se rendre compte qu'effectivement, elle n'était pas pertinente que l'inverse. Pour être plus précis, ce que je vais dire, c'est que parfois, sur HireSuite, on va faire des présentations de candidats à des entreprises et l'entreprise va dire « Ah ouais, mais non, mais cette personne ne parle pas anglais, donc en fait, je ne vais pas la contacter. Bon, » c'est un peu différent avec HireSuite parce qu'on préqualifie les gens, donc on a l'information, disons plutôt sur de la chasse sur LinkedIn. « Non, non, cette personne ne parle pas anglais, donc je ne vais pas la contacter. » Mais il y a une probabilité qui est peut-être de 20% que la personne parle vraiment anglais, mais il faut lui demander. Donc, il faut l'engager et il faut lui parler au début. À l'inverse, ah bah non, comment ?
Il faut ouvrir ses chakras.
Il faut ouvrir ses chakras à mort.
Non, mais...
Exactement. Et générer du sourcing au début. La personne est depuis 6 mois dans sa boîte. Je ne pense pas qu'elle aura envie de bouger. Mais il ne faut pas prendre la décision pour la personne. Posez-lui la question et vous verrez. Et on parle encore de cette cible, quoi. Si on reste tous dans la cible, si on contacte que des gens qui sont depuis 3 ans dans une startup, qui ont fait telle école, qui ont telle compétence, bah, c'est sûr que c'est plus difficile de recruter. Et c'est sûr qu'on peut avoir la sensation que les gens ne répondent pas sur LinkedIn ou ne sont pas sur LinkedIn. Si on élargit un petit peu, qu'on se dit ah bah, ok, la personne est là dans sa boîte depuis 6 mois, donc à mon avis elle va pas être intéressée, mais je tente quand même, je lui envoie un message, je lui dis bah, je vois que t'es depuis 6 mois dans ta boîte, donc à mon avis tu vas pas être intéressé, mais comme le poste correspond vraiment à ce que tu fais et que je pense que c'est un poste qui est sexy, qui est intéressant, qu'est-ce que t'en penses? Et là il y a plein de surprises de gens qui disent « Ah ouais, non, en fait, j'ai laissé mon expérience ouverte, mais j'ai quitté ma boîte il y a 2 mois. » Ou alors, « Ça se passe très mal et j'ai envie de partir. » Il y a énormément de surprises à chaque fois. Donc, il faut poser la question et il n'y a qu'en posant la question qu'on le saura. Et d'autant plus que personne ne peut vous en vouloir si vous le soulignez, parce que ça montre que vous avez vraiment vu le profil, que vous avez vraiment accordé de l'intérêt à la personne. « Ok, effectivement, tu as raison, ça fait 6 mois que je suis dans la boîte. Tu as raison, ça ne m'intéresse pas, mais merci pour ton message qui est au moins personnalisé. »
Mmh. Puis c'est un jeu de long terme aussi, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai pas quelqu'un que demain
combat à mener, ouais.
ouais, on va peut-être pas ouvrir la boîte de Pandore, mais t'as tout le sujet de, en tant que recruteur là, vraiment je me passe là-dessus, c'est comment je garde des touchpoints réguliers avec les potentiels quand, avec mon vivier oui. À beaucoup plus long terme, mais là c'est aussi ça qui est compliqué, c'est de revenir vers les gens fin...
Mais en tant que fondateur aussi, une des règles, c'est un peu des trucs de fonds d'investissement américain, mais c'est que le fondateur devrait passer 20 à 25% de son temps à recruter. Il y a tout le temps en train de recruter, à tout le temps rencontrer des personnes qui peuvent être pertinentes. Et nous, il y en a quelques postes où on sait qu'on va ouvrir les postes dans les 3 prochaines années. On a déjà des shortlists de personnes qui pourraient être intéressées, qui sont tu vois, dans des très belles boîtes, qui ont des super expériences, qui sont parfaitement pertinentes parce qu'on les a engagées au fil du temps et qu'on se dit « Ok, peut-être que si un jour j'ai besoin de cette personne, bah, ce sera bien de pouvoir dire « Ça fait 2 ans qu'on se connaît, tu as vu la boîte évoluer et tu as vu qu'on était sérieux. »
Complètement. Et justement, tu ouvrais la porte sur l'entrepreneuriat et on arrive à la fin de notre épisode. Toi, en fait, on a la chance que tu aies vraiment la double casquette, à la fois expert du recrutement et entrepreneur, toi-même, depuis que vous avez lancé HireSuite. Alors, j'aimerais bien te demander s'il y a d'autres pratiques qui sont super en théorie, un peu comme donc Farm, et qui ne marchent pas en pratique.
Dans le recrutement en particulier ou au sens large ?
Non, là, vraiment, j'élargis, tu vois.
Il y en a plein. Moi, je pense à des pratiques sur le pricing en particulier, où on donne toujours des conseils sur le pricing et ça semble très simple de l'extérieur, mais en pratique, ça marche pas. Par exemple, c'est pas que le produit est trop cher, c'est que les gens n'ont pas assez de valeur, donc il faut vendre la valeur et pas le prix. Oui, en théorie, oui, ça marche sur certains produits qui sont établis. Maintenant, les gens ont aussi des ordres de grandeur de prix dans la tête et il faut s'aligner à ça. Ce qui veut pas dire que c'est impossible de vendre plus cher, mais les gens ont quand même des ordres de grandeur. Donc ça, j'y pense. Sur le pricing, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystique aussi. Le recrutement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de conseils qui sont s'il y a un doute, il n'y a pas de doute ou des choses qui font un peu l'apogée de l'intuition, du gut feeling. Voilà, si tu ne le sens pas, il ne faut pas y aller. Ça, je pense que ça ne résiste pas trop à la pratique et que ça ne marche pas trop. La logique de « il faut recruter que des top performers », en réalité, tout le monde ne peut pas recruter que ce que les gens pensent être des top performers, mais ce qui est d'ailleurs généralement absurde. Et encore une fois, exemple du sport. personne qui performe dans un club change de club, performe pas. L'inverse, une personne explose dans un club. Donc, si on le voit dans le sport, c'est aussi le cas dans l'entreprise. D'autres choses qui... Il y en a plein, des choses qui...
Et en culture interne, par exemple, je te tends une perche, mais on m'a dit, les grilles de salaire, c'est hyper cool en théorie, mais c'est dur à implémenter. Et peut-être, c'est un peu comme les OKR, quoi. Beaucoup de boîtes galèrent peut-être 1 à 2 ans avant de vraiment réussir à mettre en place des OKR. C'est un vrai investissement. Donc, de ne pas s'inquiéter si on n'arrive pas. Toi, est-ce qu'il y en a comme ça qui te viennent en tête?
Les grilles de salaire, c'est un bon exemple. De manière plus générale, il y a la logique de transparence qui est un bon exemple. C'est toutes les boîtes ont envie d'être transparentes, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué à faire et on se rend compte que ça touche des limites. On va être transparent sur les salaires. Est-ce qu'on donne les salaires de tout le monde? Mais est-ce que ça veut dire qu'on est transparent, mais avec de l'information qui concerne les employés et plus nous? Donc la transparence, c'est assez difficile. Les grilles de salaire, mais on retrouve, c'est un peu des débats philosophiques qui sont un peu plus profonds. Après, c'est sur la liberté d'expression. Voilà. Est-ce qu'on peut permettre une liberté d'expression absolue? Ben non, peut-être qu'à un moment, il faut censurer les appels au terrorisme, le racisme, etc. Ah oui, mais dans ce cas-là, on limite la liberté d'expression. On retrouve un peu ça aussi dans toutes les opinions, en particulier dans l'entrepreneuriat, qui sont toujours extrêmes. Je trouve que la solution, c'est souvent un juste milieu. C'est pas transparence à tout prix, c'est un peu de transparence et un peu d'opacité. Maintenant c'est très tiède de dire ça, mais je pense que toutes les théories qui sont extrêmes et qui disent il faut absolument faire ça tout le temps, toujours comme ça, généralement elles répondent pas trop à la pratique, quoi. Ça se retient bien, ça se mémorise bien, ça se raconte bien sur Twitter et dans des livres, mais dans la pratique, bof.
Je pense que c'est du vécu aussi. C'est-à-dire que, enfin, du vécu. D'abord, ça évolue au cours du temps, donc il faut regarder l'état du terrain versus ce que j'ai voulu mettre en place. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui est, il y a des façons de faire ressentir quand même des choses aux gens. Et c'est pas forcément de dire on est transparent, ni de mettre les salaires en ouverture partout. Mais par contre, ça peut être de mettre des points pour que les gens puissent s'exprimer, je sais pas, à tel ou tel moment, de prendre certaines décisions où vraiment, il y a des décisions qu'on peut prendre collectivement. Donc, celles-là, les prendre et le documenter, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose de plus artisanal que de systématique, en fait.
Il y a de manière générale, je pense qu'il faut avoir en tête aussi que chaque grosse décision un peu tranchante a des inconvénients. J'avais animé un atelier avec un grand groupe français sur les valeurs d'entreprise. Je parlais des valeurs d'entreprise d'ailleurs suite et j'ai eu cette discussion la semaine dernière, c'est pour ça que j'y repense. Et on parlait, dans nos valeurs, il y a la bienveillance. Donc la bienveillance, ça semble a priori bateau à souhait et inutile. Et généralement, on dirait pas l'inverse. On dirait pas une entreprise, dans les valeurs d'entreprise, il y a la malveillance, tu vois, ce serait absurde. Donc, c'est peut-être que ça apporte pas tant de valeur que ça. En réalité, la manière dont nous, on pousse la bienveillance, c'est de dire, on bride énormément l'humour, par exemple, on fait pas de blagues sur les femmes, on fait pas de blagues sur l'origine, on fait pas de blagues qui puissent être gênantes. Et donc, c'est, dans cet atelier que j'avais animé, les gens me disaient, ah oui, mais en fait, ça devient quasiment de la censure, quoi. Et je disais, ouais, en fait, c'est de la censure. Donc, tout n'est pas que positif, quoi. Tout ce qui est un petit peu extrême a toujours des inconvénients. Oui, mais par contre, on accueille et on accepte ces inconvénients. On dit, on pousse la bienveillance à mort et on dit, il n'y a pas de blague sur « Ah bah tiens, t'es une femme, tu vas faire ça. » Non, ça passe pas du tout chez Airsuite et les gens se reprennent entre eux. Donc, il y a une forme de censure et une forme de une forme de limitation de la liberté d'expression. Mais ça fait partie de ce qu'on veut. Donc, toutes les opinions extrêmes, généralement, ont toujours des inconvénients en face. Et il faut aussi être capable d'accepter les inconvénients.
Liberté, responsabilité, ouais. Ce genre de choses, ce genre de sujet. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment un super échange. Et puis, j'espère que pour toi aussi, que ça a bien permis de commencer ta journée.
Absolument. Merci, Sarah.